Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'accueillir ce matin. C'est vraiment un honneur pour moi d'être au milieu de vous, de pouvoir partager ce que j'ai reçu de la part de Dieu pour vous. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc je m'appelle Alexandre Mouraviec, je viens de Bienne. Alors je vous rassure, je suis déjà venu hier, je ne suis pas venu ce matin, sinon ça aurait été tôt. Bon, quoi qu'hier, c'était tôt quand même, pour un jour de samedi. Je suis marié depuis bientôt 5 ans. Nous n'avons pas encore d'enfants. Et je suis actif dans la vie professionnelle en tant qu'indépendant, en tant que consultant financier. C'est-à-dire que mon travail, c'est de donner des conseils, donner mon point de vue à mes clients pour qu'ils aient de plus en plus d'argent. C'est ça le but du jeu. C'est un métier super cool, avec pas mal de challenges. Voilà. Donc, ce matin... Vu que je suis actif dans les finances, Dieu me parle beaucoup au travers d'exemples financiers. Donc ce matin, je vais vous parler de la parabole des talents. Tout le monde la connaît. Elle se trouve dans Matthieu 25, du verset 14 à 30. Alors je vais rapidement le lire, comme ça on aura au moins tous la même base. Donc il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui en avait reçu les 5 talents s'en alla. Il les fit valoir et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres, talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup et entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 1 talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce passage est très riche, autant au point financier, mais aussi au point symbolique. Donc tout le monde sait ce que représente le maître dans ce passage. Il représente Dieu. Dieu donne à chacun d'entre nous ses talents. Il nous donne à chacun sa capacité, mais jamais au-delà de ce que l'on peut supporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à tous, il nous a donné quelque chose et nous a rendu capables de le faire fructifier. Si on regarde d'un point de vue financier, celui qui en a reçu 5, il a doublé son capital. C'est cool. Vous recevez 100 000 francs, quelqu'un vous prête 100 000 francs, vous lui redonnez 200 000. Moi, si je fais ça, mes clients, ils sont très contents. Dieu, c'est pareil. Ce qu'il veut, c'est qu'on travaille et que l'on fasse fructifier nos talents. Et tout ce qu'il nous donne, il nous a rendu capables de le multiplier. Et ça, c'est une pensée qui est un petit peu en opposition avec ce que l'on vit sur cette terre. Aujourd'hui, surtout si on se bat sur le rêve américain ou simplement le rêve de ce monde, tout le monde peut devenir quelqu'un de très riche du jour au lendemain. il suffit de bien travailler. Dieu ne nous dit pas ça. Dieu nous dit, tu seras ce que je te permets d'être capable de faire. C'est une autre façon de voir les choses. Ce que Dieu nous donne, il nous l'a donné parce qu'il sait que c'est bon pour nous et il sait ce que l'on peut en faire. Maintenant, on va se pencher un petit peu sur le troisième serviteur. Bien souvent, on l'est. Il nous représente un peu une fois tous dans notre vie, on est au moins tous une fois ce serviteur, moi le premier. Donc si on regarde au verset 24, celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, qui a amassé où tu n'as pas vanné. Au verset 25, il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ce que l'on peut voir là dans ce passage, c'est que la peur, en réalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous bloque. Lorsqu'on a peur, on cesse d'avancer. La peur est en fait le contraire de la foi. La peur, c'est le ministère des excuses. Quand on a peur, on va toujours trouver 500 raisons de pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Ouais, mais tu vois, j'avais pas le temps. Ou ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est lui qui a fait que j'ai pas pu faire ça. En réalité, c'est simplement que Dieu nous demande de faire un pas de foi et que nous, on ne le fait pas par peur. Donc, on est bloqué. La peur nous fait fuir nos responsabilités. Dieu nous a donné à chacun des talents avec la responsabilité de les faire fructifier. La peur, simplement, nous fait dévier de cette responsabilité. On s'autorise à ne pas être responsable de ce que l'on reçoit. Comment ne pas être ce troisième serviteur? Là, on va prendre un passage dans Marc 4, du verset 24 à 25. On peut même lire le 23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle que vous avez, de celle dont vous êtes servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Souvent, la peur, tout comme la foi, provient de ce que l'on entend. Et là, la parole de Dieu nous dit simplement, faites attention à ce que vous entendez. Ne croyez pas, n'ayez pas foi si c'est ce que l'on vous dit provient de la peur. Dans le cas du troisième serviteur, probablement, vu qu'il savait que son maître était dur, probablement qu'il l'a entendu quelque part, ou il a entendu des histoires, ou le maître a été peut-être dans le champ du voisin ramasser quelque chose parce qu'il en avait l'autorité, parce qu'en réalité, il n'avait pas réalisé que au maître tout lui appartenait. Mais il pensait que parce que c'était pas dans son enclos, il prenait quelque chose qui n'était pas à lui. Et si on cultive cette peur, la suite du passage nous le dit. C'est avec la mesure que vous mesurez qui vous sera donnée. Si j'utilise la mesure peur, je recevrai de la peur. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu. Par contre, si j'utilise la mesure foi, alors je serai capable d'être ce bon serviteur. Parfois, la vie chrétienne est assez simple. Souvent, elle est résolue à deux choix. Soit j'ai la foi, soit je ne l'ai pas. Dieu nous laisse toujours la possibilité d'avoir ces deux options. Ensuite, on peut encore lire dans Matthieu 6, 26 à 27. Ça, c'est un message d'espérance. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'un d'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Ce passage, il dit, mais ne t'inquiète de rien, regarde les oiseaux. Ils vivent, ils volent, ils chantent et ils ont à manger. Ils font ce que je leur ai créé de faire et je m'occupe d'eux. Toi, tu es la seule créature où j'ai envoyé mon fils mourir à la croix pour tous tes péchés. Tu vaux beaucoup plus qu'un oiseau. Et tu penses ou tu as peur que je vais te laisser tomber? Tu as peur que je ne vais pas m'occuper de toi? Si un jour, vous voulez faire un tatouage tout faux, avec un stylo sur le bras, vous pouvez écrire ce verset-là. Le jour où vous avez peur ou vous doutez de quelque chose, souvenez-vous de Matthieu 6, 26. C'est un message d'espérance. Dieu s'occupera toujours de ceux qui cultivent la foi. Si Dieu vous demande de faire un pas, ça peut être un truc de fou. Quand Pierre a dû sortir du bateau, il a dû sortir du bateau. Il a quand même dû faire le geste « je sors du bateau ». Quand on est comme ça, ça va. Mais plus on avance, plus on perd l'équilibre. Jusqu'au moment où notre pied touche l'eau et que on est les premiers surpris. « Ah, j'arrive à marcher sur l'eau. Merci Seigneur. » Mais il faut faire ce pas de foi. Dieu nous dit, relax, nos soucis, je m'occupe de tout. Ça ne veut pas dire que ta vie sera rose, que ta vie sera facile, mais tu es capable de supporter tout ce que tu as à supporter. Vivre dans la peur ne nous fait pas survivre, au contraire. La fin du passage le dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Bien souvent, quand on a peur, on passe en mode survie, on se dit, bon ben voilà, je vais essayer de survivre. En réalité, vous mourrez. Vous vous arrêtez. Votre vie, elle a un temps, elle a un début, elle a un passage dans l'autre vie. J'aime pas dire qu'elle a une fin parce qu'on a la vie éternelle. Mais vous, vous n'avez aucune capacité d'ajouter une seconde à votre temps. Alors, au moins choisissez d'avoir la foi et d'être joyeux, de vivre dans la peur toute une vie. Il y en a qui le font. C'est triste pour eux. Et il y a encore une autre bonne nouvelle qui se trouve dans 1 Corinthiens 9, 11. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Ah, ce passage, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ce passage, il vous dit, si vous vous occupez des choses du ciel, si vous vous occupez d'avoir la foi, si vous vous occupez de la mission que Dieu vous a donné de faire, ça peut être n'importe quoi, être un bon employé au travail, être un bon témoin pour vos collègues, être une bonne mère, un bon père, quoi que ce soit, Dieu va toujours s'occuper de vous. Si vous vous occupez des choses spirituelles, il va quand même vous bénir de façon matérielle. Bien souvent, on pense que lorsque l'on s'engage à fond pour Dieu, c'est automatiquement qu'on va choisir une vie de super pauvreté. Ce passage-là nous le dit complètement le contraire. Dieu peut nous bénir de façon matérielle, même si on travaille uniquement dans le spirituel. C'est une bonne nouvelle, non? Dites amen si je dis des trucs un petit peu cool. Quand même! Donc en tant que missionnaire, ou en tant que pasteur, ou en tant que simplement témoin au travail, il est possible d'être super béni de façon matérielle. Et là, je m'arrête seulement sur la bénédiction matérielle, pas la bénédiction en général. Yann vous expliquera quels sont tous les différents types de bénédictions. Mais c'est ce que ce passage de là nous dit. En conclusion, j'aimerais encore prendre le passage de 2 Corinthiens 9, du verset 8 à 9. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toutes œuvres bonnes. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Dieu est capable. Dieu est capable de toute chose. Dieu est capable de faire de vous ce qu'il veut. Dieu est capable de vous bénir. Pourtant, ce n'est pas automatique. Il n'y a pas les 10 étapes à faire pour recevoir la bénédiction de Dieu. Sa bénédiction dépend purement de la foi que vous avez et de sa grâce. Je vais vous raconter une petite partie de mon témoignage pour finir. Comme ça, ça mettra les choses un petit peu aussi de ce que j'ai vécu un peu dans le concret. Un jour, j'ai dû faire un pas de foi énorme. J'étais dans une église, les choses se passaient comme elles se passaient. Et voilà qu'un jour, je rencontre une jeune fille, je tombe amoureux, les petits détails, voilà. Tout le monde me disait que c'était pas la bonne fille pour moi, que j'étais fou, que c'était pas possible. Mais moi, au fond de moi, je savais, au moment où j'ai posé les yeux sur elle, Dieu a parlé à mon cœur, m'a dit, c'est elle. Tout le monde autour de moi, tous mes amis me disent, mais c'est pas possible, t'as pas pu entendre la voix de Dieu autant clairement. Tu vas dans le mur, c'est un piège de l'ennemi. Mais moi, je savais que j'étais sûr qu'au fond de moi, c'était la voix de Dieu. Quand toutes les choses allaient contre moi, j'ai dû faire une fois ce pas de foi de dire, je sors du bateau, je dis, non, c'est vraiment la parole de Dieu que j'ai entendue. C'est la voix de Dieu que j'ai entendue. Cette jeune fille, j'ai rencontrée, 9 mois après, on s'est mariés. Alors je vous rassure, j'avais pas 18 ans quand on s'est mariés. On était les deux, à dire, on savait ce qu'on voulait dans la vie, on avait fini la crise d'adolescence. Donc voilà, j'encourage pas les jeunes 18 ans de prendre le temps que j'ai fait de fréquentation comme étant une vérité biblique de se marier après 9 mois. C'est différent pour chacun. Mais alors que j'étais dans l'adversité, j'avais le choix, soit de croire ce que j'entendais, de cultiver cette peur que les gens essayaient d'immiscer en moi, ou alors de dire non. Ce que j'ai entendu, je sais que c'est la voix de Dieu. Et de faire ce pas. Aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir fait. Les personnes qui essayaient de me décourager, aujourd'hui ne font plus partie de mon entourage. C'est même pas moi qui suis parti, c'est eux qui m'ont dit, tu fais pas ce qu'on te dit, casse-toi. C'était des amis que j'avais vécu avec pendant 15 ans. Et du jour au lendemain, plus de nouvelles. Mais c'est pas grave, moi je savais que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces dans tous les domaines de votre vie. Si aujourd'hui, vous ne vivez pas le verset de 2 Corinthiens 9, 8, dans ce cas-là, posez-vous la question. Est-ce que la peur me bloque ? Est-ce que ma foi est assez ferme? Je sais que quand on parle de foi, c'est toujours un truc assez abstrait, jusqu'au moment où on doit le vivre. Moi, je peux vous raconter tout mon témoignage, vous allez dire, c'est une belle histoire. Peut-être que ça va vous donner du courage de faire un mini pas, mais c'est à vous de faire ce pas de décision. Et à tous, je suis sûr que Dieu vous demande de faire des pas de foi. À tous, dans n'importe quel domaine de votre vie. Parce que Dieu vous a donné la capacité de multiplier ce qu'il vous a donné. Et ça, il faut avoir la foi pour y arriver. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont assez courageuses pour dire, ok, maintenant, je suis en train de vivre un temps dans ma vie où je suis un peu bloqué par la peur? Est-ce qu'il y en a qui ont le courage de lever la main? Ce que j'aimerais faire, si vous me le permettez, c'est que l'on puisse prier pour ces gens, que l'on puisse prier pour ces personnes qui ont levé la main, pour que Dieu puisse affermir leur foi et qu'ils puissent avoir ce courage de mettre ce pied en dehors de la barque. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ceux qui ont levé la main, c'est ce que maintenant vous avez le courage de vous lever. Déjà un pas de foi. J'aimerais simplement que l'on prie pour toutes ces personnes. Vous qui avez Vous qui avez la foi, priez pour eux, pour qu'ils puissent être fortifiés et que toute crainte puisse être bannie de leur cœur. Père, je te remercie pour tes bontés. Je te remercie parce que tu es un bon Père. Tu es un Père qui nous rend capables en toute situation d'affronter toutes les situations que l'on a devant nous. Tu es un Père qui nous a bénis et qui veut encore nous bénir. Et Père, je te prie pour toutes ces personnes qui sont debout, je te prie de poser ta main sur eux, qu'ils puissent sentir ta présence, qu'ils puissent entendre ta voix et qu'ils puissent avoir le courage de faire ce pas. Peu importe la situation dans laquelle ils sont maintenant, que cette peur s'en aille, que la peur qu'il y a dans leur cœur les lâche maintenant et qu'elle soit remplacée par une parole d'espérance, par une parole tournée vers la foi, que cette foi qui est en eux puisse grandir, qu'elle puisse s'affermir et que ces personnes qui sont debout aujourd'hui, demain, puissent être les prochains qui vont encourager ceux qui sont dans la peur. Car ils auront vécu le miracle de sortir de cette peur. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je les bénis en ton nom merveilleux. Amen. Dieu souhaite nous bénir. À nous de se rendre disponibles à sa bénédiction. On a tous le choix. Croyez-le, la foi déplace vraiment des montagnes.